Par actualité. Bonjour, c'est Clotilde Sey qui vous présente les paractualités en ce 12 septembre sur Canal M. Alors aujourd'hui, les titres déficience intellectuelle. L'intégration sociale, c'est toujours un défi. Condamnée à devenir aveugle, une résidente de Saint-Constant veut se faire opérer à Cuba. L'entrevue du jour, ce sera avec Audrey-Anne Trudel, responsable des dossiers pour la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Madame Trudel qui arrive de Genève. D'autres par actualité, un jeu pour tablette détecte si votre enfant est autiste, arthrite juvénile, des super-héros à la rescousse. Et puis l'organisme du jour, aujourd'hui nous accueillons Geneviève Labrec, directrice du regroupement pour la trisomie 21 au sujet du programme TASA. Il y aura aussi des nouvelles nationales et internationales, comme ces mères étrangères dont les enfants sont atteints de handicap qui lancent un cri du cœur. Elles ne peuvent devenir résidentes permanentes. Et puis un aveugle refusé à la Maison de la culture de Gatineau, un hémiplégique refusé sur un vol à cause de son handicap, c'est en France, et la première pub en langage des signes. On finira tout ça avec quelques nouvelles en rafale de sport et de culture notamment. Alors, déficience intellectuelle, l'intégration sociale est toujours un défi. À Rimouski, plusieurs dizaines de personnes ont participé hier matin, dimanche donc, à une marche pour sensibiliser le public à la déficience intellectuelle. Intitulée « Ces petits pas qui font la différence », cette marche était organisée par l'association de la déficience intellectuelle qui œuvre à l'intégration sociale des personnes présentant des déficiences intellectuelles dans la région de Rimouski. La présidente de l'organisme, Lise Beaulieu, souligne que la défense des droits des personnes handicapées intellectuelles est une lutte permanente pour que chacun trouve sa place. Si on pense au milieu de l'emploi, beaucoup de ces personnes ont un très grand potentiel et travaillent, mais ils gagnent seulement 5 dollars par jour. Alors je pense qu'on doit reconnaître qu'elles sont capables d'avoir un niveau de productivité comme d'autres personnes et on doit les traiter avec dignité. Elles ont le droit d'avoir le même salaire que quiconque, souligne Madame Beaulieu. Dans le reflet, une femme condamnée à devenir aveugle. C'est une résidente de Saint-Constant. On nous dit dans le reflet qu'elle veut se faire opérer à Cuba. Elle s'appelle Danielle Guérin. En été 1995, elle s'est rendue seule à l'hôpital Notre-Dame de Montréal pour consulter parce qu'elle se rendait bien compte qu'elle commençait à avoir des problèmes de vue. Une ophtalmologiste lui annonce sans ménagement qu'elle est atteinte de rétinite pigmentaire, une maladie incurable où les cellules de la rétine sont progressivement détruites. La personne atteinte est plongée progressivement dans une noirceur définitive. Danielle Guérin avait alors 30 ans. L'annonce du docteur a été directe, dit-elle. Vous avez une maladie dégénérative et vous allez devenir aveugle. J'en ai fait une dépression, je suis tombée en maladie, poursuit-elle, et comme un malheur, ne vient jamais seul. La nouvelle est survenue alors que cette mère de 3 enfants se séparait de son conjoint et voyait son travail de commis de bureau au fédéral aboli. Elle a décidé de tenter sa chance pour se faire opérer au Centre international de rétinite pigmentaire Camilo Cienfuego à La Havane, à Cuba. Il s'agit du même établissement où François Thibert, un résident de Saint-Constant, a été traité en février, comme d'ailleurs le rapportait déjà le journal Le Reflet. « Quand j'ai su, a-t-elle dit, que François Thibert était allé là-bas, ça m'a motivée. Dans certains cas, la vision nocturne notamment s'est nettement améliorée. La Constantine doit amasser 40 000 $ pour assumer tous les coûts d'une telle opération. À noter que le traitement cubain ne guérit pas la maladie, mais stopperait sa progression. La Société canadienne d'ophtalmologie et l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec déconseillent aux personnes de s'y rendre. » Thank you. Je dois avoir, en principe, si tout va bien, au bout du fil, Audrey-Anne Trudel, responsable de dossier pour la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, que vous connaissez mieux, sous le titre de la COFAN. Bonjour, Audrey-Anne.
Bonjour.
Audrey-Anne, vous faisiez partie récemment d'une délégation qui représentait la société civile canadienne, et vous étiez à Genève, hein, c'est bien ça, la semaine dernière.
Oui, c'est bien ça.
Pour rencontrer les membres du Comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais que vous nous expliquiez exactement, Audrey-Anne Trudel, pourquoi étiez-vous là-bas, dans quel but?
Eh bien, en fait, c'est dans le cadre du suivi là, de l'application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
C'est ça. Qui avait été ratifiée, pardon, excusez-moi, mais pour le redire pour nos auditeurs, qui avait été ratifiée en mars 2010, c'est bien ça?
Oui, exactement, mars 2010. Donc, périodiquement, les États parties à la Convention se font évaluer par rapport à la ratification de la Convention. Et le premier rapport du Canada devait être remis en 2012. Il a été remis avec 2 ans de retard en 2014. Et la société civile, là, donc nous, sous le chapeau un peu du Conseil des Canadiens avec déficience, avons remis un rapport alternatif au comité. Oui. Puis le comité a pris connaissance de ces documents-là et nous allions les rencontrer, dans le fond, rencontrer un peu différents membres du comité de façon informelle, mais pour faire ressortir vraiment les enjeux qui nous préoccupent, sont plus importants pour nous, peut-être des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord dans le rapport du Canada.
Comme quoi, par exemple?
Bien, en fait, le Canada, c'est sûr, dans son rapport, je dresse un bilan plutôt positif là, de la situation des personnes mm-hmm. handicapées au Canada. Nous, ce qu'on souligne beaucoup, c'est que le rapport a été basé sur des données qui n'étaient pas du tout récentes. Là, parle de données 2006-2011 environ, dû au fait que ces données-là n'existent pas. Donc, c'est difficile d'avoir un portrait, un bon portrait. Aussi, le rapport parle beaucoup de ce qui se fait au niveau canadien, mais très peu de ce qui se fait au niveau des provinces. Donc, la situation dans les provinces, on sait qu'il y a certaines matières qui sont de compétences provinciales, donc c'est peu exposé. Le fait que les deux langues des signes ne sont pas officiellement reconnues non plus au Canada. Et nous, particulièrement au Québec, là, ben, on a parlé du fait que l'insuffisance là, de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et de son application, que oui, les programmes existent dans plusieurs cas, mais qu'en raison de coupures, ils ne sont pas nécessairement appliqués. Mm-hmm. Donc, ça compromet vraiment l'exercice des droits des personnes. Puis, c'est ça, on a rencontré de façon informelle plusieurs membres du comité pour les entretenir sur le sujet. Et à la fin de notre voyage, donc là, le 2 septembre, on a rencontré l'ensemble des membres du comité pour une séance de questions, donc une courte présentation de 10 minutes des enjeux principaux. Et ensuite, on a pris des questions sur des... Ils ont tous des champs d'expertise et des intérêts différents. Ouais. Là, donc, ça a été plutôt constructif.
Plutôt constructif, parce que, donc, si je vous comprends bien, on peut compter sur vous, sur cette délégation-là, pour un petit peu, si vous me perdez, excusez-moi, j'ai l'expression qui me vient, c'est checker un peu ce qui se passe au niveau canadien, c'est bien
oui,
ça?
Oui, exactement. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les membres du comité, avant d'être membres du comité, avaient pas mal les mêmes emplois que nous. Hein. C'est des gens qui font de la défense de droits dans leur pays et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qui sont de notre bord, si on veut dire. Là, ils veulent que leur but, c'est que la convention soit appliquée. Donc, ils sont très intéressés à ce qu'on a à dire. Ils veulent qu'on leur envoie de l'information complémentaire. Et un peu d'information pour éclairer un peu par rapport au processus, là, c'est qu'en mars prochain, le comité va se réunir à nouveau. Et là, ils vont adopter des observations finales, donc soit sous forme de constats, de recommandations par rapport au Canada, là, qu'ils vont adresser au Canada. Puis avant ça, ce qu'ils faisaient lors de la rencontre à laquelle on a assisté, c'est qu'ils adoptaient une liste de questions, donc des demandes de précision ou d'informations complémentaires par rapport sur la base du rapport qui avait été soumis. Mm-hmm. Et là, le gouvernement a 2 ou 3 mois pour y répondre et la société civile peut également soumettre des réponses à ces questions-là et ça va les guider par rapport aux observations finales qu'ils vont adopter.
Concrètement, Audrey-Anne Trudel, les personnes handicapées qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que ça va changer dans leur vie et quand, à peu près?
Bien, en fait, c'est une convention internationale au Canada, ça n'a pas directement force de loi, mais le poids que ça a, c'est politique. C'est sûr que si le Canada se fait dire par les Nations unies, vous ne respectez pas les droits des personnes handicapées pour telle, telle, telle raison. Et on sait que le Canada, à l'international, et surtout depuis que Justin Trudeau a été élu, a quand même une image de un pays qui respecte les droits, un bon pays et tout ça. Donc, se faire taper sur les doigts comme ça, ça peut faire assez mal. Et moi, je pense que ça peut quand même
faire avancer les
faire
choses.
Faire bouger les choses, là. Puis, bon, notamment aussi dans le contexte actuel avec la nouvelle loi fédérale qui s'en vient, ça peut être intéressant. Là, peut-être que nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que la nouvelle loi fédérale soit beaucoup basée sur la Convention pour
oui, bien
assurer
sûr.
Le respect.
Ouais. Eh bien, écoutez, bravo, parce qu'une chance qu'on vous a, quoi. comme chantait monsieur Ferland, hein, une chance qu'on ça, et puis c'est sûrement ce qu'ils doivent se dire. Dites-moi, je ne sais pas si vous êtes une bonne personne pour me parler de ça, mais avant de vous quitter, je vois qu'il y a eu un appel à l'action pour promouvoir l'égalité des genres au sein du Comité des droits des personnes handicapées. Une seule femme membre pour 17 membres hommes à compter du 1er janvier 2017.
Oui, c'est assez consternant, en fait.
C'est incroyable.
Si je me trompe pas, c'est l'Alliance internationale des personnes handicapées qui a lancé cet appel à l'action-là. Et en fait, ça a quand même un écho assez important au sein des Nations unies en général. Ils sont en train de soulever cet aspect-là sur la plupart des comités, en fait, de suivi des différentes conventions internationales pour assurer l'égalité des genres. Parce que là, comme vous l'avez dit, une personne sur 17, ça n'a aucun sens.
Non, absolument.
Donc, on espère que ça va changer parce que c'est...
Merci. Merci Audrey-Anne Trudel d'avoir accepté de répondre à mes questions sur Canal M. Je vous rappelle que vous êtes responsable des dossiers pour la COFAM, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, et que grâce à vous, on sait qu'il y a un œil sur les comités qui chapeautent un petit peu la vie, le confort des personnes handicapées, non seulement au Québec, mais aussi au Canada.
Oui, ben ça me fait plaisir, merci à vous.
Mais je vous en prie, au revoir Audrey.
Au revoir, bonne journée.
Alors, d'autres nouvelles ou d'autres faits. Par exemple, un jeu pour une tablette qui détecte si votre enfant est autiste. Écoutez, c'est une nouvelle qui nous vient de Belgique et qui devrait être on l'espère, une bonne nouvelle aussi pour nous. Pour l'instant, on manque un petit peu de détails, mais on nous dit quand même ici qu'en Belgique, 33 enfants autistes et 45 non-autistes ont testé ce jeu, et dans 93% des cas, la tablette a pu déterminer si les petits souffraient d'autisme ou non grâce à un détecteur de mouvement. Les enfants autistes ont en effet tendance à appuyer plus fort sur l'écran et à bouger leurs doigts de manière différente. La façon de jouer des enfants alors sur cette tablette pourrait déterminer si ceux-ci souffrent d'autisme ou non. C'est une étude qui a été menée par des chercheurs d'une université écossaise et qui a révélé que le diagnostic, je vous le disais, de la tablette était correct dans 93% des cas. On a bien hâte parce qu'évidemment, c'est un processus qui n'est pas encore parvenu sur nos tablettes, et c'est le cas de le dire, mais on va se tenir au courant parce que dès que ce sera arrivé par chez nous, vous le saurez. Tenez, puisqu'on parle d'enfance, savez-vous que, en tout cas on l'a appris par Jean Siag dans la presse il y a quelques jours, que des super-héros viennent à la rescousse de l'arthrite juvénile, et on parle de bande dessinée. Un enfant qui souffre d'arthrite, c'est malheureusement le cas de plus de 24 000 jeunes Canadiens de moins de 16 ans. Et c'est justement pour faire connaître cette maladie auto-immune que la Société de l'arthrite a décidé de lancer une BD explicative sur le sujet. Ils s'appellent les Medikids. Leur mission est d'éclairer la jeune Eleanor sur les différentes manifestations de sa maladie. Par exemple, l'arthrite juvénile idiopathique, la JAJI, une inflammation chronique des articulations qu'on associe habituellement au vieillissement. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans les articulations? Comment réagit le système immunitaire? Qu'est-ce qui provoque l'usure du cartilage? Quelles sont les différentes formes d'arthrite? Les traitements privilégiés? Voilà quelques-unes des questions auxquelles ces super-héros de la planète Mediland tentent de répondre, non sans un certain humour, nous dit Jean Siag. La bande dessinée créée avec la maison d'édition anglaise Medikids, spécialisée dans l'éducation médicale pour enfants, s'ajoute déjà à une collection qui existe de près d'une cinquantaine autres BD explicatives publiées depuis 2009 sur l'asthme, le diabète, la leucémie, l'épilepsie, etc. Et chaque fois, les super-héros s'affairent à expliquer aux jeunes le béaba de ces maladies. Alors, la dernière aventure des Medikids, traitant de l'arthrite juvénile, sera diffusée sur le site de la Société de l'arthrite et dès le mois de septembre. Et je me tourne maintenant, façon de parler, parce qu'elle est au téléphone, vers Geneviève Labrec, directrice du regroupement pour la trisomie 21. Bonjour Madame Labrec.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation assez régulièrement. On vous entendra sur les ondes pour nous parler de nouveautés ou de dossiers sur lesquels vous travaillez beaucoup en ce moment au regroupement pour la trisomie 21. Et le sujet du jour, c'est le programme TASA. On dit TASA ou TASA?
TASA.
TASA, technologie au service de l'autonomie, qui est axée sur l'utilisation des technologies numériques. Et c'est un programme, dites-moi si je suis bien renseignée, qui s'adresse aux jeunes de 16 ans et plus, hein, qui vivent avec la trisomie 21. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Alors pourquoi un tel programme?
En fait, il a débuté mardi dernier. C'est un tout, tout nouveau programme. Mm-hmm. On est parti du manque de ressources pour les jeunes adultes. Les familles nous disaient toujours, quand ils ont 21 ans ou après le système scolaire, il n'y a rien qui s'offre à eux ou très peu. Donc, il y a des possibilités de stage ou des ressources le jour pour faire de l'occupationnel, mais pas beaucoup de choses qui permettent de poursuivre l'acquisition des acquis chez les jeunes. Donc, on est parti de ce concept-là.
Ouais. OK. Alors, quels sont les objectifs de ce programme-là?
En fait, ce qu'on veut surtout, c'est développer, comme je disais tout à l'heure, un peu plus l'autonomie chez les jeunes. On veut aussi leur créer une vie sociale intéressante. On a plusieurs objectifs, mais en gros, c'est de rendre nos jeunes plus autonomes. Mm-hmm. Je dis nos jeunes, mais ils ne m'appartiennent pas, évidemment. Alors, on veut les rendre plus autonomes avec
les technologies.
Mais c'est charmant. Oh oui. On les aime tous.
Mais oui.
Excusez-moi.
Non, je vous en prie. Est-ce qu'ils sont nombreux quand vous dites vos jeunes?
En fait, pour le programme, en ce moment, on a 18 jeunes de 16 ans et plus qui se sont inscrits. C'est très variable. C'est du lundi au jeudi, nos activités. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de les rendre plus autonomes avec les tablettes intelligentes ou des téléphones intelligents. Donc, on veut prendre les technologies qui existent déjà et les rendre plus habituelles à utiliser, plus facilement utilisables pour eux. Souvent, on se rend compte que les parents ont moins de connaissances technologiques que les adolescents, les jeunes adultes qu'on côtoie et qui n'ont pas toujours quelqu'un pour les aider à apprendre comment ça fonctionne. Et c'est quand même complexe, les applications. Il y a des très bonnes applications qui existent pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, qu'on peut les aider à acquérir de l'autonomie. Je pense entre autres au programme, l'application Marty, qui donne ça explique comment faire une tâche étape par étape. C'est super quand on est capable de programmer l'application. Et souvent, c'est difficile pour les parents qui n'ont pas nécessairement les connaissances.
Bien, une tâche comme quoi, par exemple? La cuisine? Je ne sais pas, je vous dis ça.
Exactement. Oui, exactement. Si on veut se faire un thé, par exemple, il y a plusieurs étapes à se faire un thé. Il faut quand même remplir la bouilloire, la brancher. Sortir une tâche, choisir le thé ou la tisane qu'on veut avoir. Et on peut toute la séquencer. Donc, un coup que la séquence est faite, le jeune a juste à passer l'autre étape. Et avec le temps, on peut diminuer le nombre de séquences pour les aider à acquérir. On a certains jeunes que c'est plus facile, qui sont rendus à un niveau, par exemple, d'envoyer des courriels. Mais envoyer des courriels, ça peut être complexe pour quelqu'un qui a des difficultés pour écrire, par exemple.
Oui.
Mais il existe plein d'applications super le fun pour travailler l'alphabet, pour apprendre les sons, pour écrire un mot plus facilement.
Oui.
Donc, ce qu'on veut, nous, c'est de les amener en 2016 et de les aider le plus possible. On a aussi, par exemple, les mercredis après-midi, ils vont se promener dans la ville. Ils vont essayer, par exemple, de partir du point A et se rendre au point B, mais avec des outils, des applications. Mais on va essayer aussi de leur apprendre que s'il arrive quelque chose en plein milieu, ben il faut qu'on s'organise. Comment on peut s'organiser dans nos transports? Ça se peut que le métro tombe en panne et qu'on soit obligé de sortir à une station qu'on ne connaît pas. Et souvent, c'est moins bien enseigné, par exemple, dans les centres de réadaptation. Ils vont leur montrer du point A au point B et tout ce qu'il y a autour, c'est plus long à acquérir.
Ah oui, en effet. J'ai vécu, Madame Labrecque, une expérience personnelle assez jolie il y a quelques jours, alors que je promenais ma petite chienne. Il y a une petite fille atteinte de la trisomie 21 qui est arrivée vers moi, et tout sourire, elle m'a très gentiment demandé « Est-ce que je peux caresser le chien ?»
Oh.
Et là, il faut dire que j'ai une petite chienne vraiment très, très calme. Alors, la petite chienne s'est couchée, la petite s'est assise à côté. Mais ça a été un moment d'une douceur. Et je me disais, est-ce que la zoothérapie, par exemple, c'est quelque chose qui est utilisé pour ces enfants-là?
De plus en plus, la zoothérapie est de plus en plus utilisée, je vous dirais, un peu partout au Québec. On a plusieurs de nos plus petits membres qui apprennent beaucoup avec la zoothérapie. En rentrant en contact avec les gens, ça se passe plus facilement quand il y a un animal dans le autour. Et en règle générale, ce sont des personnes très sociables qui veulent parler. Et ceux qui ont le plus de défis, par exemple, à communiquer, mais avec encore des technologies, maintenant, on peut faire plein de choses. Là. Il y a plein d'images dans un téléphone. Et ils n'ont pas besoin toujours d'avoir quelqu'un avec eux. Ils peuvent se transporter avec ces outils-là.
Alors, vous avez un groupe de 16 personnes, mais est-ce que d'autres peuvent s'inscrire?
Oui, en fait, on en a 16, mais ils ne viennent pas nécessairement tous les jours. Parce
d'accord.
Que certains jeunes, par exemple, font 2 jours en stage, ben, ils viennent 2 jours ou 3 jours avec nous pour combler les journées où ils n'ont rien de prévu. Donc oui, on a encore des places. Je vous dirais que le lundi, c'est notre plus grosse journée. Elle est déjà complète,
okay.
Mais on a encore des places pour les 3 autres journées.
Oui, c'est ça. Parce que je voudrais rappeler, c'est du lundi au jeudi, de 9h30 à 15h30.
Exactement.
Ça coûte $15 par jour. Et on peut s'informer, je pense, à Sophie Duchesneau, hein, c'est bien
exactement,
ça?
Exactement, c'est l'intervenante qui est en charge du projet.
Alors, écoutez, je vais très, très doucement, si vous me le permettez, donner les contacts de cette personne. Alors, c'est simplement S. Duchesneau, et Duchesneau avec un S au milieu. Donc, Duchesneau, @trisomie, trisomie.qc.ca. Sinon, il y a aussi un numéro de téléphone pour contacter Madame Duchesneau dans le 514, le 850-0666. Facile à se souvenir.
Oui.
850-0666, c'est le poste 222. Geneviève Labrecque, directrice du regroupement pour la trisomie 21, c'était un plaisir de vous parler.
Merci beaucoup, à bientôt.
À une prochaine fois. Au revoir. Actualité nationale, le cri du cœur des mères travailleuses étrangères temporaires. Il s'agit de mères venues travailler au Canada comme aide familiale, par exemple, résidentes, qui réclament qu'on leur accorde le statut de résidente permanente dès leur arrivée au pays. Mais certaines ne peuvent pas devenir résidentes permanentes. Pourquoi? Parce que leur enfant est jugé inadmissible en raison de handicap. Un raisonnement que ces mères, évidemment, jugent discriminatoire. C'est le cas notamment pour Josary Danieles, qui n'a pas vu ses filles depuis 10 ans. Imaginez, elles vivent encore en Philippines, aux Philippines. Elle dit « J'ai passé tant d'années loin d'elles, je veux être à nouveau avec ma famille ». En tant qu'aide familiale, dans le cadre du programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires, elle peut demander sa résidence permanente après 2 ans. Sa famille pourrait ainsi être parrainée au pays. Toutefois, la demande de Josary a été refusée. On m'a dit, et là c'est elle qui parle, qu'un médecin d'Immigration Canada a décidé que ma fille avait un handicap intellectuel. Un refus qui évidemment dégoûte Anna Mala du Centre d'action pour les aides familiales, qui déclare « c'est quelque chose qui est vraiment discriminatoire parce que ça dit oui au Canada, on ne veut pas des personnes avec des handicaps ». Également au National, un aveugle forcé de mettre une croix sur la MCG. Remarquez, National, non, c'est pas vrai parce que ça se passe à Gatineau, mais ça fait rien, c'est une nouvelle qu'on aimerait ne pas avoir à lire. N'entre pas qui veut à la salle Odyssée de la Maison de la Culture de Gatineau. Un homme ayant un handicap visuel a appris à ses dépens au cours des derniers mois, si bien qu'il a décidé de faire une croix sur la salle de spectacle maintes fois primée. Il s'appelle Tony Labigua. Eh bien, il se fait refuser systématiquement la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs. Alors, pourquoi? Eh bien, pour justifier son refus, la MCG a notamment indiqué qu'elle avait découvert une faille dans le système d'octroi de ses vignettes, ce qui laissait planer des risques de fraude. pourrait exiger de preuves s'il le voulait, dit monsieur Labillois. Il est bien prêt, lui, à prouver. Il a les papiers pour, il a une carte de l'Institut national canadien pour les aveugles et il dit « je suis même prêt à offrir un certificat médical s'il le faut ». Voilà un homme qui est privé de ses sorties, lui qui pouvait profiter des spectacles présentés à la Maison de la Culture parce que lorsqu'il est positionné très en avant, donc vraiment le plus près possible de la scène, il pouvait profiter des spectacles. À l'Office des personnes handicapées du Québec, on signale que le cas de l'AMCG n'est malheureusement pas unique en province et que du travail de sensibilisation, donc dans la province de Québec, reste à faire au sujet de la vignette. Deux nouvelles brièvement à l'international, une qui n'est pas réjouissante et l'autre qui l'est terriblement. Un Bordelais, donc un natif de la région de Bordeaux, a été refoulé d'un vol Bordeaux-Lyon de la compagnie EasyJet lundi. Pourquoi ? Cet homme de 33 ans est hémiplégique. Et au moment de décoller, ils lui ont demandé de quitter l'appareil. La raison avancée, il ne pouvait pas se déplacer seul dans l'avion alors qu'il avait bel et bien pourtant précisé son handicap au moment de l'achat de son billet. Je ne vous raconte pas, il a fallu qu'il prenne un autre vol pour rejoindre Lyon. Mais avec escale et tout le bazar, c'est facile. Hein. Quand on est hémiplégique, alors il ne compte pas en rester là et on le comprend. Par contre, une bonne nouvelle ici, une première pub en langage des signes de l'histoire. Assez incroyable mais vrai, le groupe Mars du Royaume-Uni va diffuser pour la première fois de l'histoire de la télévision la première publicité entièrement en langage des signes. Et c'est dans le cadre des Jeux paralympiques qui débutent le 7 septembre prochain, donc qui a déjà commencé en fait à Rio, que le groupe Mars a décidé de donner de la visibilité aux personnes vivant avec un handicap. Cette publicité pour des chocolats fait partie d'une série de plusieurs, toutes mettant en scène des personnes handicapées. Une série qui se nomme « Look on the light side of disability ». Regardons le côté léger du handicap et ce sont 120 personnes handicapées qui apparaîtront dans les diverses publicités diffusé pendant les Jeux. En rafale, ne manquez surtout pas l'émission Rio 2016. Les Jeux continuent aujourd'hui à 15h parce qu'il y a beaucoup de nouvelles aux Paralympiques. Une première victoire pour les Canadiennes en goalball. Aurélie Rivard qui rajoute à sa récolte à Rio en gagnant l'argent aux 200 mètres. Et puis également en basketball en fauteuil roulant, les Canadiennes qui remportent leur premier match de qualification. En rafale encore, On Roule recrute en collaboration avec Communautique. On Roule accueillera dès le 26 septembre trois nouveaux stagiaires. Ils sont en recrutement. Les postes disponibles, adjoints ou adjointes aux communications, développeurs analystes ou développeuses analystes. Le premier pour le web WordPress et le deuxième ou la deuxième pour le mobile Android. Également en rafale, grâce aux différentes campagnes de financement de l'organisme Caritas Estrie, 10 organismes de la vallée de l'Estrie se partageront la somme de presque 19 000 dollars. Et puis, dans la région Appalaches, plusieurs activités cet automne sont annoncées pour les 50 ans et plus, notamment des tests au niveau des capacités à conduire. Ça aura lieu les 20 et 21 septembre. Il y aura une conférence notamment de la fondation du CAA Québec qui sera offerte à tous. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'était les Paractualités sur Canal M et Clotilde Saye au micro. Merci à Anne-Laure Janson pour la recherche et à Jean-Sébastien Laliberté. À la technique, à demain.